Bonjour, donc c'est le quatrième cours de ce cycle consacré à l'immunité anti-infectieuse et ce cours-ci ainsi que le suivant auront pour sujet l'immunité contre les micro-organismes à développement intracellulaire. Il existe une série de micro-organismes, certains ne sont pas pathogènes du tout, c'est un ou deux exemples, et d'autres, vous allez le voir, qui sont responsables de maladies infectieuses et de maladies infectieuses sérieuses et pour certaines relativement fréquentes. Donc microbes qui ont la particularité soit de façon obligatoire, soit de façon facultative, de vivre à l'intérieur des cellules. Donc, ce qui est radicalement différent des bactéries auxquelles on pense volontiers, les bactéries pyogènes comme le staphylocoque, par exemple, ou le pneumocoque, qui sont des bactéries qui se développent dans les milieux extracellulaires. Vous avez justement, sur cette première diapositive, une liste, qui n'est sûrement pas exhaustive, mais enfin assez relativement complète, de micro-organismes pathogènes, donc responsables, pathogènes chez l'homme, donc responsable de maladies infectieuses. Je mets les virus à part, c'est un sujet en soi et on en a déjà parlé, on en reparlera une dernière fois dans 15 jours. Mais il y a des bactéries, des champignons et des protozoaires donc, qui sont capables de se développer soit de façon obligatoire, comme c'est le cas des premiers en haut cités, chlamydiae, erlichiae, rickettsia, mycobacterium, etc., soit de façon facultative, plutôt ceux du bas comme les salmonelles et autres, de se développer donc à l'intérieur de nos cellules. Et donc, évidemment, la problématique de ces infections se distingue en termes, sur tous les plans, en termes d'expression clinique et en termes d'immunité, largement des infections provoquées par des microbes à développement essentiellement extracellulaire. Oui, la liste, elle est longue. Les chlamydiae provoquent essentiellement des pneumonies. Pourquoi il y a marqué infection virale ici? Il y a une erreur. Excusez-moi. C'est infection éventuellement de l'arbre urinaire, l'herlichiose, le typhus, maladie historique importante provoquée par les rickettsies, mycobactérium, évidemment, tuberculose d'une part, la lèpre d'autre part, les nocardioses, donc maladie pulmonaire et qui provoque aussi des abcès, par exemple dans le cerveau, l'hystéria, qui provoque des méningites, francisella, la tularémie, légionella, la légionellose, yersinia, la peste, Bartonella, les maladies des griffes du chat, Salmonella, les fièvres typhoïdes d'une part, des entérites d'autre part, Brucella, brucellose, je les énumère, Histoplasma, histoplasmose, qui est une maladie essentiellement pulmonaire, Cryptococcus et cryptococose neuroméningée, donc du système nerveux, ça, je vous renvoie au premier cours de ce cycle, des protozoaires comme Toxoplasma, donc la toxoplasmose, assez banale chez les sujets immunocompétents, mais chez des sujets immunodéficients, cette pathologie peut être sévère, notamment au niveau cérébral ou bien chez le fœtus par ailleurs. Et Plasmodium, le paludisme, je vous renvoie au cours de l'année dernière. Donc on va évoquer certains de ces micro-organismes au cours de ces deux cours, soit c'est moi qui le ferai, soit ce sont les orateurs que j'ai invités à donner un séminaire. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler des salmonelles, et puis la semaine prochaine, je vais vous parler des mycobactéries, donc la tuberculose essentiellement. Mais vous entendrez aussi parler tout à l'heure, à 4h30, des Brucella, donc qui provoque la brucellose. Jean-Pierre Gorvel, qui est ici, qui est un éminent chercheur du Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, qui a consacré, pas la totalité, mais une partie importante de sa vie scientifique à comprendre les relations entre les micro-organismes et l'hôte, et en particulier les micro-organismes intracellulaires. Il vous parlera d'un de ses sujets favoris autour de Brucella, mais à vrai dire, il pourrait vous parler d'autres sujets qui sont d'autres microbes, notamment ceux qui sont entourés ici, parce qu'il a également contribué largement à faire comprendre les facteurs de virulence microbiens, comment la niche bactérienne s'installe au sein des cellules, etc., etc. Donc, mais il vous parlera, je crois, plus spécifiquement de Brucella. Et puis encore, la semaine prochaine, Marc Lecuy, qui est un chercheur qui travaille à Paris, à l'Institut Pasteur et à l'Hôpital Necker, vous parlera de l'hystéria et des listérioses. Donc on fera un petit, entre ces deux cours un petit tour, évidemment pas exhaustif, et ça deviendrait à la longue lassant, mais autour de microbes à développement intracellulaire, responsables de maladies infectieuses fréquentes, tuberculose par exemple, salmonellose, elles sont fréquentes, et graves, et qui posent des questions scientifiques de grand intérêt, je crois. Alors, juste pour rappeler que les pathogènes, on va dire que j'aurais pas dû mettre le mot pathogène sur cette diapositive, mais que les microbes à développement intracellulaire, justement, ne provoquent pas toujours des maladies. Et je pense que dans le monde du vivant, il y en a beaucoup plus qui ne provoquent pas de maladies et qu'il existe, comme vous pouvez le lire, des microbes à développement intracellulaire, donc non pathogènes, qu'on appelle endosymbiotiques, donc qui vivent en symbiose avec les cellules au sein desquelles il se développe, et en dos, à l'intérieur, parmi de très nombreux exemples, je cite ici le cas de Wolbachia qui est présent chez les arthropodes et qui probablement ce type de bactérie, si on remonte à l'histoire, à une période très ancienne de l'histoire du vivant, est à l'origine de l'implantation des mitochondries, dont on sait qu'ils sont d'origine bactérienne, au sein des cellules. Donc cette endosymbiose a participé très largement à l'évolution et même dans un événement absolument majeur qui est donc le développement des organes source d'énergie dans le monde du vivant. Le fait pour une bactérie ou un autre type de micro-organisme de se développer au sein des cellules implique toute une série de propriétés biologiques, c'est assez évident. Pour certaines, les cités du domaine du truisme, mais enfin, il est important de le rappeler parce que derrière chacun de ces termes, il y a évidemment des phénomènes biologiques en fait assez complexes et déterminants de la biologie de ces microbes. Donc l'un, évidemment, c'est la capacité de pénétrer à l'intérieur de cellules, d'y survivre, de s'y répliquer, d'échapper à la réponse immune de l'hôte, et puis aussi de sortir, si on se met à la place de la bactérie, enfin dans une vision non scientifique finaliste, de se développer. Un exemple flagrant, dont on reparlera la semaine prochaine, c'est que ces microbes donc, peuvent se disséminer, et la sortie peut être bruyante et dramatique. Et, prenant l'exemple de la caverne tuberculeuse, chacun sait ce que c'est qu'une caverne tuberculeuse, une caverne, un grand trou dans le poumon, c'est une manière spectaculaire, on en reparlera, de Mycobacterium tuberculosis, de sortir des cellules et d'aller en infecter d'autres en faisant donc provoquant des lésions majeures et irréversibles des poumons. Sur un autre plan, une notion qui je trouve assez intéressante, c'est qu'à nouveau, pathogène est un tout petit peu excessif ici, mais enfin, il est exact pour les rickettsies. Donc, les microbes à développement intracellulaire obligatoire, en fait, ont perdu au cours de l'évolution. Ils ont pris, par sélection, des mesures d'économie, ils ont perdu les éléments du génome qui permettent la vie en milieu extracellulaire. Donc, certains de ces microbes ont vu des phénomènes de contraction génomique, donc de perte massive de gènes, ce qui est un énorme avantage, évidemment, puisque c'est une économie d'action, une économie énergétique, donc une patho-adaptation, qui en règle se paye aussi pour ces bactéries comme les rickettsies, par la perte de capacité de mobilité. On a perdu tous les systèmes qui permettent, les flagelles, etc., qui permettent à ces bactéries de se mobiliser. Voilà quelques remarques générales sur les microbes à développement intracellulaire. Juste pour finir encore sur l'angle de l'immunité pour les règles, l'introduction, sachant qu'on va revenir abondamment sur l'immunité à l'égard des microbes intracellulaires. À vrai dire, c'est l'essentiel de ce dont je vais vous parler. Je vais plus regarder l'interaction hôte-pathogène du côté de l'hôte que du côté du pathogène. Je soupçonne Jean-Pierre, en ce qui concerne la Bruxelles, d'avoir l'angle de vision plutôt de l'autre côté. On verra, mais c'est bien et complémentaire. Donc, il y a a priori, nous défendons contre les micro-organismes à développement intracellulaire avec deux types de stratégies, mais on va voir qu'il y en a en fait aussi une troisième que je trouve assez intéressante en ce qui concerne Salmonella. La première, qui est évidente, c'est de mobiliser les facteurs antimicrobiens présents au sein de la cellule, essentiellement des éléments de l'immunité innée. Et la deuxième, ou la seconde, si on en considère qu'il n'y en a que deux pour l'instant, c'est la mise en jeu du système immunitaire de façon systémique avec comme objectif la destruction des cellules infectées. En détruisant les cellules infectées, on vient à bout du microbe. Mais on verra tout à l'heure, je garde un petit suspense, il y a une troisième stratégie possible, en tous les cas, qui a été mise en évidence récemment, en tous les cas, en ce qui concerne les salmonelles. Voilà, donc pour les salmonelles, voilà le plan que je vais suivre. Donc j'avais quelques mots d'introduction sur la bactérie, je vais en dire assez peu, à vrai dire, et surtout sur les maladies que Salmonella provoque. On va discuter du mécanisme de l'infection et de la mise en jeu donc, des réponses immunitaires, l'immunité innée, et en particulier du rôle des récepteurs de la famille NLR, les node-like récepteurs, donc les récepteurs et des voies de signalisation de l'immunité innée qui, on va le voir, jouent un rôle important, pas exclusif bien sûr, mais important dans le contrôle de l'infection par les salmonelles, l'immunité adaptative, des éléments de génétique humaine, mais aussi d'autres considérations concernant cette infection, le rôle barrière de la flore intestinale, on verrait de quoi il s'agit tout à l'heure, sur un autre plan, j'ai essayé de discuter quelques éléments de la physiopathologie de la fièvre typhoïde, donc l'infection provoquée par un sous-groupe de salmonelle, salmonella typhi, et aussi des mécanismes par lesquels ces bactéries peuvent échapper au contrôle de la réponse immune. Chaque microbe a développé ce genre de stratégie. On en a déjà vu plusieurs exemples. Je serai assez bref aujourd'hui sur ce sujet. Et il manque en fait un élément dans ce plan. On va aussi discuter une hypothèse, qui reste une hypothèse, qui est dans quelle mesure salmonella, une infection à salmonelle peut favoriser le développement de pathologies inflammatoires de l'intestin, qui sont ensuite non infectieuses. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de parcourir dans les minutes qui viennent. Donc, les salmonelles sont des bacilles à gram négatif, des entérobactériacées. Donc, il y a deux grandes catégories qui provoquent deux types de pathologies chez l'homme, sachant que la première est purement humaine. D'ailleurs, salmonella typhi et paratyphi qui n'infectent que l'homme et qui provoquent la fièvre typhoïde. On a un moment ou un autre tous entendu parler, non pas que nous l'ayons développé, parce que c'est, en tous les cas, comme vous le verrez, dans nos pays aujourd'hui, une maladie rare. Mais donc une maladie infectieuse connue, et puis Salmonella non typhi, qui a de nombreux réservoirs animaux par contre, et qui provoque pour l'essentiel des gastroentérites qui peuvent être éventuellement sévères. Et le germe de droite ici, Salmonella enteritidis, qui a cette morphologie avec ses flagelles qui leur permettent notamment de se déplacer rapidement, et ici une coloration sur l'âme de ces bactéries, sont les Salmonella enteritidis, c'est la principale salmonelle responsable de ces gastroentérites. À gauche, par contre, je reviens en arrière, Salmonella typhi, vous avez une image ici, et ces bâtonnets, responsables de la fièvre typhoïde. De l'épidémiologie, pour la fièvre typhoïde, vous pouvez lire ces chiffres, on estime, je ne suis pas sûr que ces chiffres soient d'une précision absolue, mais enfin, l'ordre de grandeur, comme vous pouvez le lire, c'est qu'il y a en tous les cas de l'ordre de 27 millions de cas par an, avec quand même 200 à 600 000 décès, donc ce n'est pas tout à fait négligeable, hein, c'est une cause de mortalité non négligeable à l'échelle de l'humanité. On sait que cette maladie, si on ne la traite pas par antibiothérapie, serait fatale dans 10 à 25% des cas. Et elle est liée sur le plan de la contamination à la contamination donc de l'eau par les bactéries et par les sels. Et vous pouvez voir sur la carte de cette planisphère que les régions dans lesquelles cette pathologie est la plus fréquente, elles sont marquées en violet, c'est l'Asie du Sud-Est, l'Inde et toute l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, etc. Ensuite, le continent africain, sud-américain, la Russie, la Chine sont intermédiaires et les pays occidentaux et l'Australie sont des pays où aujourd'hui ce type d'infection est devenu très très rare. Dans le passé, on vaccinait systématiquement contre la typhoïde. Il y a des vaccins assez efficaces, assez pro-inflammatoires, mais qui ne sont plus utilisés systématiquement, en tous les cas dans nos pays, compte tenu de l'hygiène autour de l'eau et donc la possibilité d'être préservé de cette infection. Mais qui, encore une fois, à l'échelle mondiale, comme vous pouvez le voir, reste une infection d'importance non négligeable. Un peu de clinique, cette maladie, la fièvre typhoïde, est, comme son nom l'indique, caractérisée par la survenue de fièvre, d'un certain nombre de symptômes. Les gens peuvent être très fatigués, très abattus, avoir des maux de tête, céphalées, des troubles digestifs, même si c'est moins au premier plan que dans les formes non typhies d'infection par salmonelle. Une notion que j'ai appris quand j'étais étudiant en médecine, qui était que quand on a une fièvre, normalement, on a une tachycardie, c'est-à-dire que le cœur bat vite, et ce n'est pas le cas dans cette pathologie. Il y a une influence sur la régulation du rythme cardiaque pathologique qui fait qu'il y a une bradycardie relative, le cœur reste relativement lent, il y a des aspects cutanés de taches rosées, et là où les choses deviennent ennuyeuses, ce sont les formes sévères, donc les atteintes digestives sévères dont vous avez une image, une nécrose de l'intestin donc, provoquant des hémorragies sévères, vous pouvez lire que ça survient dans plus d'un cas sur 10, loin d'être négligeable, et il peut y avoir des manifestations neurologiques sévères dans quelques cas. Voilà le tableau général de la fièvre typhoïde qui fait que c'est une maladie infectieuse grave dont on verra à la fin qu'elle est grave en partie, comme souvent dans le cas des maladies infectieuses, de par la réponse immune de l'immunopathologie. On en parlera tout à l'heure. Un mot sur Salmonella non typhi. Je n'ai pas trouvé de chiffres à l'échelle mondiale, mais juste des chiffres pour les États-Unis. On estime, probablement pas des données d'une énorme précision vu la symptomatologie, mais qu'environ 12 millions de personnes aux États-Unis, c'est pas mal, développe ce type d'infection à partir d'une contamination de l'eau et donc de déjections d'animaux et la présence de la bactérie chez le poulet, chez les volailles. C'est la forme la plus fréquente de contamination, donc par essentiellement Salmonella enteritidis, même s'il y a d'autres bactéries Salmonella nontifi, provoque en règle des maladies infectieuses qui auto-résolutives, avec une gastro-entérite qui peut être extrêmement sévère, donc une atteinte de l'intestin et de la fièvre. Chez les sujets immunodéficients, dont les réponses immunes sont anormalement déprimées, donc, il peut y avoir une dissémination de la bactérie et donc des signes systémiques. De façon ultra simpliste, parce que j'y reviendrai pas énormément ensuite, c'est vraiment une vision raccourcie, mais enfin qui vous donne une idée. Pour l'infection à Salmonella nontifi se caractérise par initialement l'infection des cellules épithéliales de l'intestin, qui engendre une réponse inflammatoire, notamment, entre autres, la production d'une cytokine qui s'appelle interleukine 8, qui est une chémokine qui attire les polynucléaires neutrophiles, donc un afflux de polynucléaires neutrophiles qui vont tuer les bactéries, mais aussi provoquer des lésions intestinales et la diarrhée. C'est une vision ultra simplifiée, mais assez juste de ce qui se passe dans cette infection, encore une fois, habituellement auto-résolutive. Et voici où se rencontrent essentiellement les cas de Salmonella nontifi. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même épidémie, enfin pas tout à fait la même épidémiologie qu'en ce qui concerne Salmonella tifi, puisque la fréquence la plus élevée des cas se trouve dans l'Afrique subsaharienne. Mais il y a encore l'Afrique subsaharienne et dans une certaine mesure aussi dans l'Asie du Sud-Est. Mais c'est surtout une maladie présente en Afrique et donc liée globalement à des situations d'hygiène qui ne sont pas adéquates. Alors, on va, une fois cette présentation faite, on va discuter donc des mécanismes de l'infection et, dans un premier temps, des réponses de l'immunité innée déclenchées par ces infections, ayant à l'esprit essentiellement les infections provoquant les fièvres typhoïdes, même si, ça complique un tout petit peu les choses, les modèles expérimentaux animaux chez la souris utilise en fait une bactérie qui, chez l'homme, donne une infection type non-typhi, mais qui donne chez la souris une infection de type typhi. C'est une particularité d'espèce. Et on va voir de quoi il retourne. De façon un peu schématique, mais enfin ce schéma qui est extrait d'une revue récente, à mon avis de bonne qualité, qui décrit les principaux éléments de la réponse immune et de la relation hôte-pathogène en ce qui concerne Salmonelle chez l'homme. On peut se définir de la façon suivante. Donc, en haut, le point numéro 1 ici, c'est la lumière intestinale, donc bordée, ici représentée évidemment de façon simple, par les cellules épithéliales. Et parmi les cellules épithéliales, il y a des cellules épithéliales spécialisées qu'on appelle les cellules M, qui ont une morphologie qui fait qu'elles sont moins hautes, elles n'ont pas les microvillosités que présentent les cellules épithéliales classiques. Et ces cellules M, donc, qui sont un embranchement de différenciation dans le système de développement de l'intestin des cellules épithéliales, sont situées au-dessus des régions sous-muqueuses qui contiennent les cellules du système immunitaire, comme les macrophages, quelques lymphocytes T, des lymphocytes B, des cellules NK, et surtout les cellules dendritiques qui sont capables d'ailleurs d'avoir des prolongements qui vont jusque dans la lumière pour détecter la présence d'éventuels pathogènes. Et les cellules M, j'en parle particulièrement, même si ce n'est pas de façon exclusive, ce sont les cellules principales dans lesquelles par lesquelles les salmonelles vont entrer. Elles ont des capacités d'endocytose particulièrement fortes, ce qui sans doute rend compte du fait que ces salmonelles qui immigrent et sont capables de se mouvoir grâce à leurs flagelles, c'est par ces cellules qu'elles entrent et qu'elles peuvent ensuite secondairement infecter des macrophages. Et en vert ici, là, c'est le point numéro 2, et ces macrophages sont à l'intérieur de vacuoles. SCV, c'est Salmonella Containing Vacuole, les vacuoles qui contiennent les salmonelles. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, donc je n'entrerai pas dans les détails, mais en fait, cette vacuole, c'est la niche écologique optimale pour les salmonelles. Elles sont très très contentes d'être là. Elles développent des systèmes astucieux qui leur permettent en partie d'échapper aux réponses immunes, et elles ont l'environnement nutritionnel adéquat pour se diffuser et se développer. Donc elles sont très très bien dans ces vacuoles. Évidemment, l'hôte, globalement, n'est pas tout à fait satisfait de cette situation, mais c'est là qu'elle se réplique. Donc elle se réplique, comme vous pouvez le voir, il y a migration cellulaire qui font que, notamment par aussi libération de bactéries du fait de l'attraction des polynucléaires, la destruction des cellules qui contiennent les salmonelles, qu'on va retrouver des macrophages dans les ganglions mésentériques, donc qui drainent l'intestin, qui vont contenir un grand nombre de ces salmonelles. Et c'est, à nouveau, ces macrophages vont être en particulier attaqués dans un premier temps par les polynucléaires neutrophiles, ce qui certes tue les bactéries, mais pas toutes, permet aussi une libération extracellulaire de bactéries et donc une diffusion, une dissémination possible de la bactérie à l'ensemble de l'organisme, l'infection de macrophages dans d'autres tissus, et évidemment une situation où, qui va engendrer les réponses immunes des lymphocytes T et B qui sont marquées en, de façon schématique ici en bleu. Donc c'est une vision un tout petit peu schématique, mais qui donne une idée globale de la façon dont cette infection se déclenche. Donc retenez la notion que ces vacuoles contenant les salmonelles au sein des macrophages sont le site dans lequel les salmonelles se répliquent et donc constituent le milieu biologique ad hoc pour leur survie, mais plus que leur survie, leur développement. Donc si on essaye de commencer à analyser d'un peu plus près les mécanismes de l'infection et les phénomènes de protection, en amont de ce que je viens de vous montrer, il y a des protections qui est le fait que les salmonelles sont ingérées par voie orale et doivent résister pour arriver à infecter les cellules de l'intestin au pH gastrique, qui permet de tuer un grand nombre de bactéries, mais ensuite c'est une question de nombre de bactéries. L'intégrité intestinale, c'est sûr que s'il y a des brèches, une pathologie préexistante, cela n'est pas favorable. Et la flore microbienne, on verra tout à l'heure, plus loin dans le cours, que la flore microbienne est susceptible de protéger contre une infection par salmonelle, donc une espèce de compétition écologique entre différents types de microbes, de bactéries en l'occurrence, on y reviendra tout à l'heure. Donc la capacité d'arriver et d'infecter les cellules épithéliales, évidemment, c'est assez banal de considérer cela, dépendant de la dose, la quantité de microbes qui a été ingérée, qui leur permet, in fine, pour un certain nombre d'entre eux, ou entre elles, de ces bactéries, de traverser le mucus, donc une couche protectrice qui est située au-dessus des cellules épithéliales, et donc d'être endocytée par les cellules M, aussi de pénétrer dans les cellules épithéliales non spécialisées, et d'être phagocytée donc, par les macrophages et les cellules dendritiques, c'était dans le schéma précédent, donc on retrouve des bactéries dans ces différents endroits, et qu'à partir de cette pénétration, la libération possible de bactéries est responsable d'une dissémination extracellulaire, d'une part, donc qui peut être systémique, et la diffusion, je vous l'ai montré dans le schéma précédent, des bactéries à travers les cellules phagocytaires aux plaques de Peyer, donc c'est le système immunitaire présent sous la muqueuse intestinale, dans les ganglions mésentériques qui drainent l'intestin, et au-delà, par dissémination lymphatique cette fois-ci, la première étant une dissémination sanguine, ici on a une dissémination lymphatique vers le foie, la rate, la moelle osseuse, qui sont des tissus riches en macrophages, où à nouveau les salmonelles peuvent retrouver leur niche sous forme de ces vacuoles dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà l'histoire possible d'une infection par salmonelle. Donc comment on se défend? Mis à part les barrières mécaniques dont j'ai déjà parlé, le pH, l'intégralité, la préservation de l'intégrité du revêtement épithélial, mais ça ne suffit pas, et l'écologie de la flore microbienne. Ensuite, les moyens de défense spécifiques, si on s'intéresse d'abord à l'immunité innée, il y a d'une part l'engagement de récepteurs dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'allais dire multiples reprises peut-être, que sont les toll-like récepteurs, donc comme vous savez maintenant, est une famille de protéines qui s'exprime sous forme dimérique, homodimérique ou parfois hétérodimérique, comme c'est le cas ici, qui sont présents soit à la membrane extracellulaire, vous avez en haut ici une cellule en bas et en haut donc le milieu extracellulaire, mais certains de ces toll-like récepteurs sont présents dans la membrane de vacuoles d'endosomes ou de phagosomes, donc dans lesquels sont présents potentiellement des bactéries. Donc ces mécanismes sont mis en jeu dans les cellules épithéliales, qu'elles soient spécialisées, cellules M ou non. Et donc vous avez ici plusieurs constituants de la bactérie, comme la flagelline, donc la protéine qui est associée au mouvement par les flagelles des bactéries, donc qui est reconnue par un récepteur qui s'appelle TLR5, le lycopolysaccharide, donc la paroi de la bactérie, qui sont reconnues par un récepteur qu'on appelle TLR4, des lipoprotéines de salmonelle qui sont reconnues par des hétérodimères TLR1-6-2, et au niveau des endosomes contenant potentiellement des salmonelles, à nouveau, TLR4 est exprimé, donc peut reconnaître des lipopolysaccharides, de salmonelle, mais aussi l'ADN qui qui contient en particulier des séquences CPG de la bactérie, peut être reconnu par un autre récepteur de type TLR qui est TLR9. Et vous avez aussi plusieurs voies de signalisation de molécules, dont je vous ai déjà un peu parlé, qui sont mises en jeu, qui vont permettre très rapidement d'induire la production notamment de cytokines pro-inflammatoires, mais aussi activer dans les cellules qui sont capables de phagocytose et de microbicidie, d'activer les systèmes de destruction bactérienne. Et ça, ce n'est pas le cas des cellules épithéliales. Et pour ce qui est de la voie dépendante de TLR9, TLR4 dans les endosomes, aussi induire la production d'interférons de type 1. Et les données de la génétique, on verra tout à l'heure des données chez l'homme plus précisément, ou chez la souris, indiquent de façon indiscutable le fait que, chez la souris en tous les cas, ce n'est pas clairement le cas chez l'homme, à vrai dire, par exemple que TLR9, marqué en violet, est vraiment important pour le contrôle de l'infection, idem de TLR5, de TLR2 pour la souris, mais aussi TLR4, et ensuite des molécules de signalisation, comme MYD88, etc. etc. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces schémas. L'important est que là, on a donc des capteurs présents à la surface de la cellule et à l'intérieur de la cellule dans les endosomes, qui donc très rapidement vont reconnaître des molécules protéiques ou lipopolysaccharidiques d'origine ou des acides nucléiques d'origine microbienne, déclencher ces réponses immunes innées et la mise en jeu donc, de toute une série de molécules susceptibles de combattre l'infection. Donc ça, ceci est clairement établi. Mais il n'y a pas que les toll-like récepteurs, il y a une autre famille dont je voudrais parler un peu plus en détail en raison de la mise en jeu d'un mécanisme que j'ai trouvé en lisant ces papiers particulièrement intrigants. Alors, cette famille, c'est la famille des node-like récepteurs, NLR, qui sont d'autres types de récepteurs de l'immunité innée qui reconnaissent des molécules d'origine bactérienne, enfin microbienne, ou bien des signaux, entre guillemets, de danger donc, liés à l'altération, aux modifications des cellules. Et ces protéines, ces récepteurs, sont situés dans le cytosol. Donc, ils ne sont pas à la surface des cellules, contrairement aux toll-like récepteurs, ils sont dans le cytosol. Vous avez ici l'exemple, il y en a toute une série de molécules dans cette famille, et on ne va pas les énumérer. Les protéines s'appellent node 1 et node 2, qui ont ce type de structure, sont présents dans le cytosol. D'autres molécules qui vont constituer, je vais vous montrer quelques images, un complexe moléculaire qu'on appelle l'inflammasome, par exemple NLRP3 ou NLRP6, NLRP12, sont capables, si je reste sur ces molécules et la constitution de l'inflammasome, d'induire l'activation d'une enzyme comme caspase 1, mais il y en a d'autres, comme vous allez voir, d'autres caspases qui sont des protéases qui clivent d'autres protéines, dont la résultante principale, mais pas unique, est de cliver une pro-cytokine comme pro-interleukine 18 ou le pro-cytokine interleukine 1-bêta, on a déjà eu l'occasion de parler de ces protéines, de les cliver et de permettre la production rapide d'une quantité importante de molécules actives qui vont être libérées par la cellule et agir de façon pro-inflammatoire, activer les cellules phagocytaires, etc. etc. Ces voies-là activent une signalisation de transcription via des facteurs qui s'appellent NF-kappa-B qui permettent l'expression aussi de gènes pro-inflammatoires. Donc on va surtout parler de la mise en jeu de ce système au cours de l'infection à salmonelle avec la production importante locale d'interleukine 1 et d'interleukine 18 et aussi ce que cette voie induit, qui est la mort par pyroptose, donc c'est une façon de tuer les cellules, de façon très précise, qui agit sur la clairance de salmonelle indirectement, parce qu'en libérant des salmonelles, cela induit la mise en jeu des polynucléaires neutrophiles qui vont phagocyter et tuer ces salmonelles. Mais je vous dis tout ça pour introduire un autre concept que je vais développer dans un instant. Avant cela, c'est ici l'image de molécules de cette famille des node-like récepteurs, qu'ici on appelle NEP, NEP1 ou NEP56, ça c'est chez la souris, il y a plusieurs molécules de la sous-famille NEP, il n'y en a qu'une seule chez l'homme, mais le principe reste le même, qui forment des polymères avec ces images en propeller, comme je ne sais pas en français, les propellers, comment on dit, les turbines, comment, hélice, oui c'est mieux hélice, merci, en hélice, et qui s'associent, donc en violet, ici NLRC4 ou NEP1, qui s'associent à des éléments bactériens, comme l'aiguille du système sécrétoire de salmonelle. Il faut savoir, je n'en ai pas parlé jusqu'ici, que les bactéries ont des systèmes sécrétoires qui ressemblent vraiment à de fines aiguilles qui permettent de relarguer dans leur environnement toute une série de protéines qui sont évidemment favorables au développement de la bactérie. Mais donc un élément de l'aiguille du système sécrétoire qui s'appelle T3S, je n'entre pas dans le détail, se fixe à NEP1. Un autre élément du système sous forme de cône s'associe également à la molécule NEP1 et la flagelline dont j'ai déjà parlé. Ça y est, je commence à faire des bêtises. S'associe à NEP5-6. Donc, plusieurs molécules, chez la souris en tous les cas, où il y a plusieurs molécules, mais chez l'homme, le principe est le même, même si c'est un seul récepteur. Donc, ces capteurs, comme les toll-like récepteurs, sont aussi capables de reconnaître des molécules d'origine bactérienne et d'enclencher, on a déjà vu, la production d'IL-1, d'IL-18, la pyroptose, et on va voir un autre phénomène d'intérêt. Et donc, ceci est déclenché par les produits de sécrétion, donc par les produits que libère la bactérie dans son milieu qui l'environne, notamment au niveau de... Enfin, ici, il faut que cela arrive jusqu'au cytosol, mais à partir des vacuoles dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, le point que je veux introduire et schématiser sur cette diapositive, mais après, je vous en donnerai un certain nombre d'illustrations expérimentales. Donc, vous avez ici un système cellulaire. Ici, il est montré de façon arbitraire, parce que vous avez ici les cellules épithéliales, les petites salmonelles qui viennent infecter ces cellules. Et dans les différentes cellules impliquées, les cellules épithéliales elles-mêmes, mais aussi les cellules hématopoïétiques, on verra que les cellules épithéliales jouent un rôle particulièrement important. La reconnaissance donc, de produits issus de ces salmonelles par ces différentes molécules de la famille NLR, comme NLRC4 ou NEP, qui vont constituer, après activation, cette polymérisation et le recrutement des caspases, donc forment ce qu'on appelle les inflammasomes, donc activent les, par exemple caspase 1, mais aussi caspase 8, donc provoquer ce que je vous ai déjà dit, c'est la pyroptose, la mort cellulaire et la libération de substances pro-inflammatoires, mais un phénomène que je trouve tout à fait intéressant, c'est une autre façon d'essayer de se débarrasser d'une infection, et vous allez voir, d'après les données expérimentales, en tous les cas chez la souris, que cela est important. C'est que ce système permet d'induire, au moins celui-là avec caspase 8, mais probablement pas que, d'induire en fait l'expulsion dans la lumière intestinale des cellules infectées. Et que c'est une façon de se débarrasser de l'infection, c'est en fait d'expulser la cellule qui porte les bactéries. Donc il s'ajoute, c'est le troisième mécanisme d'action antibactérie ou microbe intracellulaire que j'évoquais en introduction du cours. C'est à côté du fait qu'il y a la mise en jeu donc, et la destruction intracellulaire de microbes dans les cellules infectées, à côté de la destruction par le système immunitaire des cellules infectées, il y a aussi l'expulsion. L'expulsion, évidemment, in fine, résultant dans la mort bactérienne. Et je vais vous montrer toute une série de données expérimentales qui sont assez récentes, qui datent de ces dernières années, qui montrent comment, ou en tous les cas, le fait que l'activation des récepteurs de la famille NLR, NEP, NLRC4 et la mise en jeu de plusieurs caspases contribuent à ce phénomène d'expulsion des cellules infectées, même si au moins de moi n'est pas compris à ce jour le mécanisme par lequel exactement l'expulsion des cellules se fait. Alors on va le voir donc à travers une série de données expérimentales. La première est issue d'un article qui a été publié relativement récemment, comme on peut voir dans la revue Immunity l'année dernière, où à peu près tout ce que je vais vous montrer consiste en des modèles d'infection expérimentale de souris avec Salmonella typhimurium, donc qui est une, chez l'homme, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit élément de complexité, est une salmonelle qui provoque une infection de type non typhi, mais qui chez la souris provoque une infection systémique plus sévère de type fièvre typhoïde-like. Donc on estime, faute de mieux, que ce modèle expérimental est un bon modèle pertinent pour la fièvre typhoïde chez l'homme, avec toutes les limites habituelles de la transposition des données expérimentales murines à l'homme. Donc dans ce type de situation, on peut infecter des souris sauvages, comme par exemple C57 Black 6, ou des souris génétiquement modifiées, pour ne pas exprimer telle ou telle molécule d'intérêt dans l'immunité anti-infectieuse. Et dans les expériences qui figurent sur cette diapositive, les souris infectées vont être des souris, en dehors des souris sauvages, des souris lesquelles on a inactivé les deux allèles du gène qui code pour NLRC4. Donc une de ces molécules de la famille NLR susceptible d'être impliquée dans l'immunité contre salmonelle. Et on fait des choses un peu plus sophistiquées, c'est qu'éventuellement on réintroduit à partir de ce modèle, l'expression donnée à l'RC4 de façon tissue spécifique. Je ne vais pas entrer dans les détails comment cela se fait, mais le modèle marqué ici par les triangles jaunes sont des souris qui expriment NLRC4 uniquement dans les cellules épithéliales. Et en dessous, en carré, où sont les carrés ? En carré bleu, on a réintroduit NLRC4 uniquement dans les cellules hématopoïétiques, donc les macrophages et les lymphocytes. Okay. Donc l'intérêt, c'est qu'en étudiant la souris dont le marqueur est jaune ici, ça va permettre d'apprécier est-ce que la présence d'NLRC4 uniquement dans les cellules épithéliales est utile au contrôle de l'infection par salmonelle. Et à l'inverse, si NLRC4 n'est exprimé que dans les cellules d'origine hématopoïétique, est-ce que cela suffit à contrôler l'infection? Autrement dit, ça permet de faire la part du rôle respectif des cellules épithéliales et des cellules hématopoïétiques. Donc on mesure toute une série de paramètres dans cette expérience, comme vous pouvez le lire, la température corporelle des souris, l'hématocrite, je vais expliquer ce qui se passe, la diarrhée, ça c'est évident, et la production de facteurs inflammatoires que sont les eicosanoïdes. Donc la température cutanée chez la souris, lorsqu'on provoque une infection chez une souris sauvage, elle baisse. C'est les carrés noirs, c'est caché derrière le carré bleu, mais la température corporelle en 30 minutes, hein, c'est ultra rapide, baisse de façon extrêmement significative. Vous voyez que si on fait la même expérience de des souris qui n'expriment pas NLRC4, il n'y a pas d'hypothermie. La température reste constante. Donc c'est assez spectaculaire et montre l'importance de la mise en jeu extrêmement rapide, donc au niveau des cellules épithéliales et hématopoïétiques qui sont juste derrière, de ce récepteur de type NLRC4. Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe lorsque NLRC4 est présent que dans les cellules épithéliales, c'est la courbe en jaune. Il y a un abaissement de température, il est un peu retardé, mais qui montre qu'il y a un rôle des cellules épithéliales. Et quid de l'expression d'NLRC4 dans les cellules hématopoïétiques, il y a aussi la chute de température. Donc la réaction inflammatoire induite dans les cellules hématopoïétiques est impliquée. Ok, ça c'est une première information. Ce n'est pas la plus importante, mais je détaille les données ici. La seconde, ça concerne l'hématocrite. Du fait de la diarrhée, il y a une perte de liquide plasma des souris, et donc cela induit de façon indirecte une concentration des globules rouges, donc une élévation de l'hématocrite. Donc chez les souris sauvages, où c'est là, évidemment la réponse immune est optimale, entre guillemets, l'élévation de l'hématocrite est très importante. En 30 minutes à nouveau, ça va très très vite. On n'a pas le taux de base, il est à peu près par là. Vous voyez à nouveau ici que les souris déficientes en LRC4 n'ont pas d'élévation d'hématocrite, donc il ne se passe pas grand-chose, en tous les cas, au bout de 30 minutes. Et vous voyez que les souris chez lesquelles NLRC4 est présent à la cellule épithéliale sont en situation intermédiaire et également c'est un peu plus élevé pour l'hématocrite des cellules hématopoïétiques, donc il y a contribution d'NLRC4 sur les deux types cellulaires. Là où les choses sont les plus spectaculaires, ce sont les deux diagrammes du bas. La diarrhée, donc l'induction extrêmement rapide à nouveau en 30 minutes des conséquences de l'infection, c'est que cette diarrhée, elle est présente chez les souris sauvages, elle est absente initialement chez les souris, ça peut paraître paradoxal, qui n'ont une déficience en LRC4, mais vous voyez que la présence d'un LRC4 sur les cellules épithéliales suffit à provoquer une diarrhée équivalente. Oh là là, ça c'est. J'ai du mal avec ça, excusez-moi. Là, j'ai déclenché une tempête en plus, carrément. Donc, les souris qui expriment NLRC4 uniquement dans les cellules épithéliales ont autant la diarrhée que les souris sauvages. Donc, autrement dit, la présence d'NLRC4 et les événements induits par l'activation de ce récepteur sont nécessaires et suffisants à déclencher la diarrhée, donc la pathologie intestinale immédiate sur laquelle je vais revenir. Et vous voyez qu'en ce qui concerne l'expression d'NLRC4, dans les cellules macrophagiques, l'effet est moindre. Et il y a une corrélation, ce qui ne démontre pas une relation de cause à effet, mais il y a une corrélation entre l'importance de la diarrhée et l'importance de la production d'écoïsinoïdes comme prostaglandine E2, une des substances inflammatoires produites dans les différents modèles. Donc la conclusion de ces expériences, que j'ai détaillées pour essayer d'être le plus clair possible, c'est que NLRC4, donc un de ces récepteurs de la famille des node-like récepteurs qui forment ces inflammasomes, induisent une pathologie intestinale ultra précoce, et en pratique, on sait que c'est la flagelline qui active NLRC4, et que cela se passe, en tous les cas pour la diarrhée et l'inflammation précoce, au niveau des cellules épithéliales et pas au niveau des cellules immunes, les macrophages. Et alors, le plus joli de ce papier, c'est ce qui est ici. Donc, ce sont des coupes histologiques de l'intestin. Ici, d'une souris NLRC4 déficiente, on retrouve les villosités intestinales classiques. En haut, c'est la lumière et le matériel dans la lumière. Et vous voyez qu'il y a une différence évidente entre les deux images. La souris qui exprime NLRC4 uniquement au niveau de l'intestin, je vous fais grâce des autres modèles, d'une part, a des villosités intestinales qui sont à l'évidence moins en forme. Donc, il y a paradoxalement une pathologie de cellules épithéliales. Et c'est évidemment lié, c'est qu'ici, dans la lumière, vous le voyez moyennement bien, mais vous voyez que c'est différent d'ici, il y a plein de cellules. Donc, c'est ce phénomène d'expulsion cellulaire que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que l'activation de NLRC4 par les cellules épithéliales enclenche une expulsion des cellules de villosité vers la lumière. Et c'est évidemment, il y a des bactéries dans ces cellules, dans un contexte de l'infection par salmonelle, et c'est une façon de se débarrasser de l'infection. Pas terriblement élégant, mais efficace. En fait, c'est assez efficace parce que, comme vous le savez probablement, les cellules épithéliales de l'intestin se renouvellent extrêmement rapidement. Donc, ce qui est perdu est vite reconstitué. Et une autre façon d'illustrer ça, c'est de compter le nombre de colonies de bactéries présentes au niveau des tissus du cécum. Donc ça correspond à l'infection au niveau de la partie droite du gros intestin de ces souris. Donc dans les quatre conditions que j'ai évoquées, mais cette fois-ci on n'est pas au bout de 30 minutes, on est au bout de 18 heures. Donc ça permet de voir le degré de contrôle de l'infection. Donc dans les souris sauvages, il reste des bactéries, mais vous voyez qu'il y en a cette mesure ici, entre 10 000 et 100 000, ça doit être par gramme de tissu, je pense. Dans les souris qui n'expriment pas NLRC4, il y en a à peu près plus de 100 fois plus. Donc là, cela démontre que NLRC4 est utile au contrôle de l'infection, puisqu'en l'absence de NLRC4, les souris ont 100 fois plus de bactéries de salmonelle. Et à nouveau, on s'interroge au rôle spécifique de NLRC4 au niveau de l'épithélium et NLRC4 au niveau des cellules macrophagiques. Et vous voyez que les points concernant les souris qui expriment NLRC4 au niveau de l'épithélium se situent au même niveau que les souris sauvages, indiquant donc à nouveau, cette fois ça c'est la démonstration la plus jolie, que l'expression d'NLRC4, la réponse immune induite et en particulier ce phénomène d'expulsion des cellules épithéliales infectées, est efficace et permet de contrôler l'infection mieux que la présence d'NLRC4 uniquement dans les cellules macrophagiques où la valeur est intermédiaire entre les souris totalement déficientes et les souris où NLRC4 n'est pas exprimé au niveau de l'épithélium intestinal. Donc la conclusion, c'est que l'expulsion des cellules épithéliales dans la lumière intestinale induite par la flagelline qui se passe extrêmement rapidement, au tout début de l'infection, est une manière efficace de protéger l'organisme, pas totalement, mais contribue fortement à la protection de l'organisme contre l'infection. Et en fait, ceci a été montré, vous allez voir, par des schémas parallèles, des expériences parallèles et des molécules parallèles. Si on revient au petit schéma que je vous ai déjà montré tout à l'heure, l'activation de caspase 1 et par NLRC4, mais aussi par d'autres molécules, NLRP3, 6-12, etc. Je vais vous montrer maintenant, dans d'autres schémas expérimentaux, que le même phénomène se produit en activant d'autres molécules de la même famille, NLRC, etc., ou NEP, et impliquant d'autres caspases comme caspase 8. Je vais vous montrer des expériences dans la diapo qui suit, qui montrent que l'inflammasome, toujours la même histoire, qui active caspase 8, donc et non plus caspase 1, mais c'est le même schéma, même fonction protéolytique, peut compenser la perte de caspase 1, donc il y a deux systèmes qui fonctionnent en parallèle, et dans cette expérience avec compensation, dans d'autres un peu moins, mais toujours on est dans le même système, c'est l'infection expérimentale des souris par Salmonella typhimurium, et le phénomène observé, c'est via l'activation des inflammasomes et des caspases, l'induction de l'expulsion des cellules épithéliales infectées et le contrôle de l'infection. Donc, à travers les résultats, les expériences dont je vais vous montrer les résultats maintenant, je vais vous indiquer que la voie que j'ai montrée tout à l'heure pour NLRC4 existe chez la souris et plus ou moins chez l'homme. C'est plus difficile à démontrer chez l'homme, évidemment, pour d'autres molécules, d'autres récepteurs de la même famille, selon le même schéma de transmission de signaux, aboutissant dans tous les cas à l'expulsion des cellules intestinales. Donc ici, c'est une expérience où les souris à gauche sont inactivés non pas pour le récepteur lui-même, mais pour la caspase ou les caspases, donc qui sont activés en aval de ces récepteurs. Donc ici, caspase 1 et caspase 8, ne tenez pas compte de RIPK3, qui est une astuce génétique qui permet à ces souris de survivre. Je n'entre pas dans les détails ici. S'il n'y avait pas le knockout de RIPK3 en plus, on n'aurait pas ces modèles. Et donc on compare des souris à gauche qui n'expriment ni caspase 1 ni caspase 8 à des souris qui n'expriment pas caspase 1. Et on a le même type d'image que celle observée tout à l'heure, donc au cours de l'infection, précocement après l'infection, dans cette situation-là où les systèmes via les récepteurs de la famille NLR ne peuvent pas être mis, ne sont pas activés, en tous les cas n'induisent pas de réponse puisque les éléments intermédiaires caspase 1 et caspase 8 sont déficients, les villosités intestinales sont très jolies et il n'y a pas grand-chose dans la lumière. Par contre, dans les souris où certes n'ont pas caspase 1 mais ont toujours caspase 8, vous voyez qu'il y a une grande perte cellulaire au niveau de l'épithélium qui n'est pas très en forme, les villosités sont beaucoup plus courtes, et par contre on retrouve à nouveau ce phénomène d'expulsion cellulaire, plein de cellules dans la lumière, relarguées et contenant les bactéries. Et ceci permet le contrôle, là je suis en train de répéter quasiment la même chose que tout à l'heure, sauf que les systèmes moléculaires sont différents, contrôle de l'infection, 18 heures après infection, la quantité de bactéries au niveau du cécum, à nouveau souris sauvages. Les souris ici en carré blanc, c'est déficiente en LRC4, comme tout à l'heure. En vert, c'est déficiente en caspase 1 et caspase 8. C'est le même niveau d'inefficacité de contrôle bactérien. Par contre, en bleu ici, ça, ce sont les souris qui expriment toutes les caspases, donc elles sont comme les souris sauvages. Et en rose, il manque caspase 1 et en jaune, caspase 8. Vous voyez que les souris, il manque soit caspase 1, soit caspase 8, se comportent à peu près ou tout à fait comme les souris sauvages, donc montrant que les deux systèmes d'activation via caspase 1 ou caspase 8 de ce phénomène d'expulsion des cellules sont capables de fonctionner de façon, avec un certain degré de redondance. Ok, donc à résumer de ce que je vous ai dit jusque-là et qu'on va réillustrer encore autrement, vous avez ici donc un épithélium intestinal, la lumière au-dessus, les tissus en dessous, donc la salmonelle, elles sont là, les petites salmonelles qui vont être capables d'infecter les cellules épithéliales, vont induire extrêmement rapidement, on l'a vu en quelques minutes, plusieurs phénomènes biologiques importants, donc via l'activation des récepteurs de la famille NLR, comme ici NEP ou NLRC4, c'est la même chose, activation de caspase 1 ou 8, et 8, mais avec substitution possible, production d'interleukine 18, pyroptose, ça c'est possibilité de mort cellulaire, et ça c'est plutôt, donc c'est l'élément nouveau et que je trouve qu'il mérite qu'on s'y arrête, ce que je suis en train de faire un moment, c'est l'expulsion des cellules infectées, qui est une manière finalement assez astucieuse de combattre l'infection. Un autre modèle, mais qui va toujours pouvoir raconter la même histoire, finalement, un autre papier, celui-là est un peu plus ancien, 2014, qui montre toujours un modèle d'infection expérimentale par Salmonella typhimurium chez la souris, évidemment, avec les limites des modèles murins, où on observe la présence de bactéries intracellulaires dans la lumière intestinale, donc c'est des bactéries qui ont été expulsées avec les cellules dans l'intestin. Vous voyez la cinétique après l'infection, donc assez rapidement, on voit une élévation avec, vous voyez que les ordres de grandeur, évidemment au départ il n'y en a pas, mais qui sont extrêmement importants en nombre de cellules positives. En rouge, en parallèle, c'est les bactéries dans l'épithélium intestinal, la cinétique est à peu près superposable. Et ici, ce sont les bactéries dans la lumière intestinale, donc cette fois-ci, ce sont les bactéries extracellulaires. Dans le même contexte, on voit qu'elles sont marquées par un colorant fluorescent, ce qui permet de les voir et de les compter plus facilement. La cinétique est d'une décroissance qui est liée à ce phénomène, selon toute probabilité. Et on peut montrer que les cellules épithéliales qui contiennent Salmonella typhimurium sont présentes en très grande quantité dans la lumière. J'ai oublié à quel moment exact se situe ce résultat expérimental, mais il est quelque part probablement par là, au bout d'un certain nombre d'heures. Donc, c'est la description du même phénomène que celui que je vous ai déjà évoqué. Là, il n'y a pas de notion de molécule mise en jeu, mais là, elles y sont. Puis, il y a des belles images de microscopie qui montrent le marquage en vert des bactéries qui sont, dans lesquelles on a introduit de façon artificielle une protéine fluorescente, la green fluorescence protéine. Donc, ça permet de les visualiser au microscope à fluorescence. Et sont marquées aussi en jaune une molécule qui s'appelle ICAM, en rouge lactine, et en bleu, je ne sais plus, je vais le retrouver, je ne peux plus lire, j'ai oublié, c'est les noyaux cellulaires tout bêtement, en bleu ça représente les noyaux cellulaires. Donc vous avez l'intestin, ici de souris, coupe d'intestin de souris infectée par Typhimurium et qui exprime un LRC4, à droite qui n'exprime pas un LRC4, en bas à gauche qui n'exprime ni caspase 1 ni une autre caspase, que si caspase 11, il y en a toute une série de molécules de cette même famille, et à droite à nouveau un modèle où il y a ni caspase 1 ni caspase. Oh, punaise. Ni caspase 11. Donc vous pouvez voir, par exemple ici, c'est le plus flagrant, dans le modèle NLRC4 déficient, il y a un certain nombre de points verts. Ça veut dire qu'il y a des bactéries présentes, que l'infection n'est pas contrôlée au moment de l'expérience. Ce qui est quantifié ici, à nouveau, c'est qu'il y a beaucoup plus de bactéries présentes dans les tissus, par section, que dans les souris sauvages, celles qui sont ici. Donc qui montrent qu'NLRC4 ou NLRP4, peu importe, est essentiel au contrôle de l'infection par salmonelle. Et ici, c'est la même chose concernant les déficiences en caspase. Si ces caspases sont ici déficientes 1 et 11, on retrouve plein de points verts, autrement dit de bactéries, et donc le contrôle de l'infection est moindre que dans les souris qui expriment caspase 1. Je me suis trompé tout à l'heure, vous avez dit, ici, il n'y a pas de déficience à gauche. Hein. Elles expriment les caspases, ici, elles n'expriment pas la caspase, notamment 11. Donc le résultat est identique finalement quand NLRC4 est déficient au niveau des cellules épithéliales, ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure, ou d'autres molécules de la même famille, NEP, ou d'autres inflammasomes, je vais vous le montrer encore, on a à chaque fois le même résultat. Ici, c'est un modèle un peu différent, mais au moins évidemment, il est in vitro, mais il est avec des cellules humaines, et qui montre qu'il peut y avoir un rôle aussi de ces récepteurs NLR qu'on appelle non canonique, j'entre pas dans les détails, c'est le mécanisme général qui est intéressant. Ici, donc, le modèle est in vitro, donc beaucoup plus artificiel, évidemment. Ce sont des cellules épithéliales humaines dans lesquelles une caspase est inactivée en utilisant des siRNA, donc des ARN complémentaires, qui vont entraîner la dégradation de l'ARN codant pour telle ou telle caspase. Et donc, on mesure ici la production apicale, au sommet des cellules qui sont orientées dans le système, d'interleukine 18, donc un des produits issus de l'activation des protéines de la famille NLR. Donc dans des conditions où il n'y a pas de modification génétique des cellules, il y a une production d'interleukine 18. Ce sont ces colonnes. Évidemment, la partie intéressante ici, c'est en présence de salmonelle. Si on inactive, à droite, c'est un contrôle où on inactive l'IL-18, on dégrade l'essentiel de l'ARN d'IL-18, donc il y a beaucoup moins d'IL-18. Ça a tout son sens. Mais le résultat expérimental intéressant est ici. C'est que si on ajoute un siRNA qui entraîne la perte, pas totale, mais importante, de la caspase numéro 4, eh bien, on voit que la production d'interleukine 18 est considérablement réduite, donc qui montre que caspase 4 est nécessaire à la production d'IL-18 dans ces cellules humaines. Et ce qui n'est pas montré là, mais c'est que caspase 4 est activé par ces fameux node-like récepteurs, des récepteurs de cette famille. Encore une autre façon de le montrer, j'insiste parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et que je trouve assez joli. Ici, c'est avec, pour montrer plusieurs molécules jouent le même rôle, des souris dont la caspase numéro 11 est déficiente, qui sont infectées par Salmonella typhimurium, et on regarde à J7 la présence des microbes dans différents éléments du corps, la rate, le foie, les ganglions mésentériques, donc en aval de l'intestin, le cécum, partie droite du côlon, le côlon, donc la partie gauche, et les lumières intestinales. Et en noir, les points noirs correspondent aux souris sauvages, et les points blancs correspondent aux souris dont donc cette caspase 11, qui est activée à nouveau par ces node-like récepteurs, est inactivée. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence de charge bactérienne au niveau de la rate à J7 d'infection, au niveau du foie et des ganglions lymphoïdes mésentériques, donc ça n'intervient pas sur ce point, mais par contre, au niveau local, intestinal, la charge bactérienne est significativement supérieure, un peu plus de 10 fois au niveau du cécum et au niveau de la lumière intestinale, si caspase 11 est déficient. Donc il montre que localement, l'activation à nouveau de ces phénomènes de pyroptose, de production d'interleukine 18 et surtout probablement d'expulsion des cellules infectées, joue un rôle dans les étapes précoces du contrôle de l'infection. C'est à nouveau montré ici, mais je vais m'arrêter après pour cette partie-là, ne vous inquiétez pas trop. Là, c'est un autre modèle encore sur caspase 4, dont j'ai déjà dit un mot. Là, vous avez la cinétique dans un modèle in vitro de la présence des bactéries sur le, ou dans l'épithélium intestinal, vous voyez que si caspase-4 est déficient, il y a nettement plus de bactéries. Ici, c'est un modèle où, en échelle logarithmique, donc à peu près 5 fois plus de bactéries. Et l'extrusion, donc l'expulsion des cellules de la couche, et se fait beaucoup moins en situation caspase-4 est déficient. Donc le résumé de tout ça, je remonte le schéma que j'avais déjà indiqué tout à l'heure, c'est qu'à travers plusieurs récepteurs de la famille NLR, comme NLRC4, NEP, et encore un ou deux autres, j'ai mis NLRX ici, par la reconnaissance de différents constituants de la salmonelle au niveau des cellules épithéliales, sont induites l'activation des caspases 1, 8, 4, 11, de façon, je n'entre pas dans trop de détails, et dans plusieurs systèmes qui permettent la constitution de ces inflammasomes dont les conséquences biologiques sont, on l'a vu, la production de l'interleukine 18, la mort des cellules, mais surtout, je le répète pour la dernière fois, l'expulsion des cellules contenant les bactéries avec des nuances en fonction des systèmes activés, si les cellules expulsées sont tuées ou pas tuées. Ça a des conséquences en termes d'induction d'inflammation locale. Mais le point ici qui me semble intéressant, c'est la capacité extrêmement rapide des cellules épithéliales immédiatement après l'infection d'induire un phénomène qui va faire que certaines de ces cellules, beaucoup de ces cellules, sont expulsées de l'intestin via l'activation de ces inflammasomes. Pour moi, la question non résolue à ce jour, c'est ce qui se cache derrière ces flèches, c'est-à-dire quelle mécanistique moléculaire fait que la cellule se détache, ça implique que toutes les jonctions qui existent entre la cellule épithéliale et ses voisines vont se défaire. Enfin, toute une série de phénomènes importants doivent survenir pour que l'expulsion survienne. Et là, il y a, à mon avis, des questions intéressantes sur le plan biologique. Voilà pour ce point sur lequel je souhaitais insister, parce qu'à titre personnel, au moins, il m'intéresse. Alors, maintenant, on va parler d'immunité adaptative. Donc, on retrouve des cellules avec lesquelles vous êtes familier, les lymphocytes T, les lymphocytes B, ici, essentiellement, les lymphocytes T. Et schématiquement, il se passe ceci, qui est assez classique et qu'on retrouve donc beaucoup de modèles infectieux. Ici, une cellule phagocytaire, par exemple, une cellule dendritique, mais aussi des macrophages, donc qui sont susceptibles d'avoir phagocyté des... Donc, c'est représenté ici, là, vous avez une vacuole à nouveau contenant une salmonelle, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc, il y a des réponses innées qui sont enclenchées, et les réponses innées, entre autres, vont induire la production de cytokines que l'on appelle l'interleukine 12, l'interleukine 23. L'interleukine 12, qui est formée en fait d'un hétérodimère, va se fixer sur son récepteur, également constitué d'un hétérodimère, à la surface de lymphocyte TCD4 en particulier, activer des voies moléculaires à travers des kinases et des facteurs de transcription qui vont agir donc sur le génome de ces lymphocytes T, aussi de cellules NK, pour induire une différenciation dans une fonction effectrice dont on a déjà parlé, les cellules dites TH1 qui vont essentiellement, c'est un peu simpliste de dire cela aussi en raccourci, mais essentiellement produire l'interféron gamma. L'interféron gamma, donc excrété, va être capable de se fixer sur le récepteur présent à la surface des cellules qui contiennent les vacuoles avec le salmonelle, et donc à nouveau induire une signalisation via des kinases, des facteurs de transcription, et qui vont induire l'induction de toute une série de protéines que je vais décrire dans un instant, qui vont agir pour détruire la bactérie présente dans la vacuole, et la bactérie qui elle-même donc, sécrète une série de facteurs de résistance. Mais ce phénomène est important, mais il n'est pas exclusif, parce qu'il y a aussi la mise en jeu d'une autre population de lymphocytes TCD4, qui se différencie sous le fait de l'activation par l'hétérodimère entre la même chaîne IL-12-P40, mais l'autre qui est IL-23-P19, donc c'est globalement ce qu'on appelle l'interleukine 23, qui, avec d'autres cytokines, permet la polarisation de lymphocytes TCD4 en lymphocytes dits TH17, parce qu'ils, on en a déjà parlé, produisent des cytokines de la famille IL-17, et une fonction importante de ces cellules, à travers donc la production de ces cytokines, c'est d'activer les neutrophiles, de les attirer et de les activer pour tuer les bactéries extracellulaires. Donc on va voir... Il y a quelques éléments de génétique qui permettent de penser que ces deux populations de lymphocytes T, en termes de lymphocytes effecteurs, sont impliquées dans l'immunité contre salmonelle. Évidemment, il s'agit là de réponses spécifiques d'antigènes initialement, ces lymphocytes, je ne l'ai pas indiqué, mais reconnaissent des peptides provenant de la bactérie pour être activés. Quelles sont les évidences? Je vais reprendre quelques vieilles expériences, enfin, par vieilles, je veux dire, qui datent d'il y a une vingtaine d'années, qui montrent que les lymphocytes sont importants dans le contrôle de l'infection. Ces expériences sont assez classiques et simples. Vous voyez, cette publication, ce qui explique la moindre qualité graphique des images, date de 1997, où ici, c'est toujours un modèle d'infection expérimentale par Salmonella typhimurium, mais les souris infectées sont soit des souris ici sauvages, en fait hétérozygote pour une mutation ici présente à l'état homozygote, la mutation dite nude, vous savez, ce sont ces souris qui n'ont pas de poils, on les appelle nude, mais en plus du fait de ne pas avoir de poils, elles n'ont pas de thymus. Donc si elles n'ont pas de thymus, elles n'ont pas de lymphocytes T, ce qui manque un facteur qui est important pour la différenciation du thymus. Donc si on regarde ensuite ce qui se passe dans l'infection par cette souche de bactéries salmonelles chez ces souris immunocompétentes ou celles-ci déficientes en lymphocytes T, et si on regarde par exemple ici la charge bactérienne 4 semaines après l'infection au niveau du foie, au niveau de la rate, comparée à des souris dites immunocompétentes, vous voyez qu'il y a une différence très significative de quantité de bactéries présentes, surtout que c'est en échelle logarithmique. Donc, qui montre que les lymphocytes sont utiles, et on peut montrer que ce sont plus particulièrement les lymphocytes qui expriment un récepteur de type alpha-bêta, donc les lymphocytes classiques, parce que si on fait l'expérience avec des souris, ce ne sont plus des souris nude maintenant, mais des souris qui n'ont pas de chaîne bêta du récepteur T pour l'antigène, et qu'on regarde la charge bactérienne au cours du temps, ici sur 80 jours environ, vous voyez que les souris immunocompétentes vont réussir à éliminer les salmonelles au niveau de la rate, au niveau du foie, alors que les souris déficientes en lymphocytes T, en tous les cas de type alpha-bêta, non seulement n'éliminent pas, malgré l'immunité innée, tout ce que je vous ai raconté avant, n'arrivent pas à éliminer la salmonelle qui est présente au niveau du foie et de la rate. Si on regarde les lymphocytes de type gamma-delta, donc une population minoritaire qui est également impliquée dans certaines réponses immunes, on en parlera dans 15 jours, vous voyez qu'il n'y a pas de différence, donc elles ne semblent pas jouer un rôle critique dans le contrôle de l'infection. Si on regarde les lymphocytes CD4, ici étudiés chez des souris dont les molécules du système d'histocompatibilité de classe 2 ont été éliminées, donc lymphocytes CD4 ne peuvent être fonctionnels, ou en fait ils sont même absents, vous voyez qu'il y a une différence, les souris sauvages éliminent la bactérie dans la rate et dans le foie, et les souris sans lymphocytes CD4 ne sont pas capables de le faire, donc il faut des lymphocytes CD4, alors que les lymphocytes CD8 ne semblent pas absolument essentiels, puisque les courbes d'évolution de la présence de bactéries dans le foie, la rate, sont superposables. Et l'interféron gamma dont je viens de vous parler est très important. En tous les cas, chez la souris, c'est clair, parce que vous allez voir que chez l'homme, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Si on regarde la survie, si cette fois-ci, ce n'est pas la charge bactérienne, c'est encore plus dramatique, la survie de souris qui ont été infectées à J0 par Salmonella typhimurium, une certaine quantité de bactéries, les souris sauvages survivent, si on n'en met pas trop, et les souris qui sont déficientes pour l'expression du récepteur d'interféron gamma meurent. Donc, qui démontre de façon indubitable que l'interféron gamma est un médiateur très important de l'immunité adaptative dans l'immunité antisalmonelle. Alors, comment ça marche, l'interféron gamma? Je vous parlerai de génétique après. En fait, l'interféron gamma induit une multitude de l'expression d'une multitude de protéines qui ont des effets antibactériens. Donc, à nouveau, vous avez ici l'interféron gamma, type 2, c'est la même chose, qui se fixe sur son récepteur hétérodimérique, recrutement de kinases, qui vont phosphoryler notamment des facteurs de transcription, un facteur de transcription qu'on appelle STAT1. Quand il est phosphorylé, il s'homodimérise et il est capable d'entrer dans le noyau. Dans le noyau, il se fixe sur des séquences spécifiques, GAS, en amont d'un paquet de gènes qui codent pour toutes ces molécules, donc dont l'expression va être induite sous l'effet de cette signalisation, molécules qui ont des effets antimicrobiens, notamment antisalmonelles. Donc on va les passer en revue de façon un peu plus systématique. Une première famille de gènes qui sont induits par l'interféron gamma sont les gènes de la famille NOX, qui ensemble, une fois ces protéines, vous avez la structure en domaine ici, constituent un ensemble qui s'appelle la NADPH oxydase, et qui est une enzyme en fait, qui permet le transport d'électrons et la production d'oxygène contenant un électron supplémentaire, substance hautement toxique, qui est libéré dans les vacuoles qui contiennent les salmonelles ou d'autres micro-organismes lorsqu'il s'agit d'autres infections. Donc ça facilite la destruction des bactéries par ces radicaux oxygène libres. Une autre famille de gènes induites par l'interféron gamma sont les familles d'UOX qui ont une fonction relativement similaire et permettent la production d'eau oxygénée. L'eau Javel, c'est HOCl, mais qui est aussi une substance microbicide. Une autre protéine induite très importante, c'est la NO synthase qui permet la libération de NO dans les vacuoles, qui est aussi hautement toxique pour les bactéries. Une autre série de molécules impliquées vont jouer un rôle au niveau des membranes, de stabiliser les membranes au niveau de cette vacuole. On va revoir ça sur un schéma tout à l'heure. Encore une autre famille est impliquée dans les transferts vers l'isosome. L'isosome joue un rôle important par fusion avec les vacuoles par les enzymes qu'il libère dans la destruction des bactéries. Il y a encore la molécule NRAMP qui est très intéressante parce qu'elle permet de faire fuir de la vacuole où est la salmonelle, le fer et le manganèse. Et la bactérie n'aime pas du tout qu'on lui enlève son fer et son manganèse. Donc elle se retrouve dans une situation nutritionnelle défavorable qui ne lui permet pas de croître comme elle l'aimerait. Donc c'est un bon moyen de défense. Il y a encore l'enzyme, plus son nom, IDEO, qui transforme, on va le revoir tout à l'heure, le tryptophane, et donc qui fait qu'il y a une disponibilité de l'acide aminé essentiel tryptophane au niveau des vacuoles qui est réduite, donc qui est défavorable à la croissance bactérienne. Et encore les protéines de la famille galactine et des protéines impliquées dans l'autophagie, dont je vais vous dire à moins. Vous voyez, une très longue liste de molécules, toutes induites par la gamma interféron, et qui toutes ont une fonction antibactérienne, et spécifiquement dans la discussion aujourd'hui, antisalmonelle, en agissant au niveau des vacuoles qui contiennent ces salmonelles. De façon imagée, à travers des schémas de cette revue, vous avez ici donc la situation où la bactérie est dans sa vacuole, enfin elle y pénètre, ça y est, elle y est là. Donc interviennent toute une série de ces protéines en bleu qui sont induites par l'interféron gamma, des protéines probablement ici qui jouent un rôle sur le maintien ou la disruption de la membrane de la vacuole, je n'entre pas trop dans les détails. Ici, je vous en ai parlé, NRAMP qui fait fuir le fer et le manganèse, donc qui prive la bactérie d'éléments nutritionnels importants. Idem, c'est pas représenté ici pour le tryptophane. Et puis, il y a donc l'activation de la production de NO, d'eau oxygénée, de radicaux oxygène libre, autres substances toutes toxiques avec des modifications du pH sur la bactérie présente au niveau du phagolysosome. Phagolysosome, parce que c'est le phagosome, phagocytose de la bactérie, lysosome, parce qu'il y a fusion avec des lysosomes contenant les enzymes qui permettent d'attaquer aussi la bactérie. Et si la bactérie se retrouve dans le cytosol, ce qui est une situation que les cellules n'aiment pas trop, où les moyens de défense sont plutôt plus faibles, donc c'est cette situation-là, sont mobilisées en bleu, je schématise, les protéines qui sont encore une fois induites par l'interféron gamma, tout ça est interféron gamma dépendant, qui permet de l'autophagie, c'est-à-dire la séquestration de la bactérie dans un autophagolysosome qui est susceptible aussi de permettre la destruction de la bactérie. Donc c'est entre guillemets, pour parler de façon simpliste, une voie de secours pour essayer de tuer les bactéries qui sont sorties des vacuoles. Alors ici, un élément d'illustration pour montrer que cette autophagie qui en soi une fonction biologique assez complexe est impliquée dans l'immunité anti-Salmonella typhimurium. À nouveau, ce sont des souris infectées par Salmonella typhimurium. Donc, on va regarder ce qui se passe chez des souris sauvages ou des souris dont on a génétiquement inactivé un constituant du système autophagie qui est ATG16-1. Et donc, si on compare ce qui se passe au niveau de l'histologie, vous avez ici les souris sauvages, ici les souris dans lesquelles, au niveau des cellules épithéliales, à nouveau, ça se passe au niveau des cellules épithéliales, cette molécule ATG16-1 est inactivée en situation non infectée, en situation infectée. On voit plus ou moins bien ici, mais ici, il y a une réponse inflammatoire extrêmement sévère. Il y a aussi plus de bactéries, ce qui est quantifié ici. Donc, un score pathologique, donc il témoigne du niveau de destruction intestinale et l'inflammation. Donc la colonne en bleu, ce sont les souris déficientes dans les cellules épithéliales. À nouveau, ça se passe dans les cellules épithéliales. Si la molécule est déficiente dans les macrophages, il ne se passe rien de plus que dans les souris sauvages. Au niveau des ganglions mésentériques, pour la présence de bactéries, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bactéries présentes si ATG16-1 est déficient dans les cellules épithéliales. Autrement dit, ce phénomène d'autophagie dans les cellules épithéliales, contribue, à côté d'autres mécanismes dont on a déjà parlé, au contrôle de l'infection. Et ce n'est pas l'autophagie au niveau des macrophages qui apparemment joue un rôle essentiel. Et ici, c'est la dissémination au niveau de la rate, c'est la même histoire. Et il en est de même, l'inflammation est de ce fait beaucoup plus importante si l'autophagie est déficiente, production d'interleukine 6, d'interleukine 1 au niveau du sécom, au niveau de l'ilion terminal. Et donc la conclusion, c'est que le déficit en cette protéine de l'autophagie, donc, qui rend l'autophagie inopérante, au niveau des cellules épithéliales, à nouveau, donc ça permet d'insister sur l'importance des cellules épithéliales, même si ces réponses immunes sont sous l'effet de l'action des lymphocytes T, crée un état susceptibilité à Salmonella typhimurium associé à un état inflammatoire. Voilà. Alors ça, c'était l'immunité adaptative. Un mot de susceptibilité génétique chez l'homme, parce que il est toujours intéressant de regarder la génétique humaine, surtout si on s'intéresse à une pathologie humaine. Et aussi, cela permet de temps en temps d'arriver à des résultats qui sont très tranchés et parfois surprenants. Alors, deux types de données. Premier type de données concerne des corps de population où on peut mettre en évidence des facteurs de risque, mais pas des facteurs de risque qui sont dramatiques, mais néanmoins significatifs. Donc ici, sont comparées des cohortes de patients qui ont, avec typhoïde ou sans typhoïde, étudié au Vietnam et au Népal, trois cohortes. Vous voyez le nombre de personnes, 432 avec une typhoïde pour la première cohorte, comparé à 2000 qui ne sont pas infectés, etc. etc. Et ces chercheurs ont montré qu'il y avait une association entre le fait de n'être pas infecté et de ne pas avoir de typhoïde, donc de maladie infectieuse grave, si on exprime un certain allèle HLA de classe 2, qui est indiqué ici, HLA-DR-B0405. HLA-DR, je vous rappelle que ce sont les molécules qui présentent les peptides aux lymphocytes CD4. Donc, si on est HLA-DR-B0405, probablement, on doit présenter de façon relativement efficace, même si on n'a pas de données fonctionnelles ici, un certain type de peptide de salmonelle qui favorise la réponse TCD4. Il y a une différence qui est assez significative. Si on prend par exemple la cohorte numéro 1, la fréquence de ce LL qui est donc protecteur, chez les sujets infectés, c'est 0,01%, alors que chez les sujets non infectés, c'est 0,05, donc 5%. Donc vous voyez un facteur 5 qu'on retrouve à peu près dans les autres cohortes. Ça, c'est la façon dont on étudie, je ne vais pas entrer dans les détails, on peut mettre en évidence, visualiser cette association génétique. Donc certains allèles HLA de classe 2, en tous les cas celui-là, est protecteur, donc qui renforce le concept que les lymphocytes TCD4 sont cruciaux dans l'immunité contre salmonelle. Alors, des données qui sont plus directes à partir de pathologies génétiques rares, qui sont la situation de patients, il y en a très très peu, c'est quelques dizaines dans le monde, qui ont la malchance d'avoir des mutations délétères qui font que, dans le premier exemple, la chaîne P40 de l'interleukine 12, dont je vous ai déjà dit un mot tout à l'heure, je vous rappelle qu'elle est nécessaire à l'induction de la production d'interféron gamma par les lymphocytes TH1, à la différenciation des lymphocytes TH1 et aussi des lymphocytes NK. Et donc cette molécule IL-12-P40, une des deux chaînes de l'interleukine 12, est déficiente. Donc ces patients n'ont pas d'IL-12. Et les patients qui n'ont pas d'IL-12, donc en raison de mutation des deux allèles hérités des deux parents, ont une susceptibilité très élevée aux infections par les salmonelles. Vous avez ici une étude qui porte sur 132 malades, c'est énorme compte tenu de cette situation. Alors, pardon, parce que je vous ai parlé de l'interleukine 12, et la diapo suivante va vous parler du récepteur de l'interleukine 12, mais on va avoir les deux cohortes de patients, soit des patients qui sont déficients dans le récepteur, soit des patients qui sont déficients dans la cytokine. Évidemment, la conséquence, on peut estimer qu'elle est la même, et de fait, elle est la même. Donc ici, l'étude de 132 malades, qui ont une déficience complète, qui n'ont pas de récepteur pour l'interleukine 12. Donc l'interleukine 12 produite ne peut pas induire la production d'interféron gamma par les lymphocytes T et les lymphocytes NK. Eh bien, chez 43% d'entre eux, cette série de malades, 43% d'entre eux ont développé une salmonellose, à noter cependant qu'elles sont essentiellement de type non-typhoïde. Et ceci a peut-être aussi un rapport avec la déficience, parce que si j'ai le temps, je vous dirai tout à l'heure que le typhoïde est une maladie immunopathologique. Et donc, 40% des cas, il y a eu récidive. Donc c'est vraiment une vulnérabilité ou une susceptibilité à la salmonella, en tous les cas, au moins de type non-typhi, qui est très marquée, c'est peut-être aussi lié à des questions épidémiologiques, chez les patients qui ont un déficit en récepteur de l'IL-12. Ça, c'est donné très précise. On le verra la semaine prochaine, les mêmes patients sont également très sensibles aux mycobactéries, y compris le BCG. Mais le cercle ici, ce sont les malades donc, qui ont les salmonelloses en bleu. Certains ont la malchance d'avoir et la salmonellose et les mycobactéries. Ça, c'est si on étudie les malades qui ont été directement diagnostiqués. Et ensuite, on regarde, quand on étudie une famille, on trouve d'autres personnes qui ont la même anomalie génétique, on retrouve les mêmes résultats, donc, ce qui confirme cette susceptibilité. Et ce sont des patients où, si on étudie l'expression du récepteur de l'interleukine 12 à la surface des cellules, c'est la courbe chez les sujets normaux en blanc ici. L'intensité de fluorescence va de la gauche vers la droite. Donc plus c'est à droite, plus c'est fort. En rouge, c'est les contrôles négatifs. Et vous voyez que chez les malades, un exemple, il n'y a aucune expression du récepteur. Donc la conclusion, alors avant de conclure, le résultat, pour, c'est la même chose pour les malades qui sont déficients cette fois-ci en la cytokine, en IL-12, P40, 44 malades. Les résultats sont à peu près les mêmes. Un quart ont développé des salmonelloses, plutôt montifiées, avec récidive fréquente. Et donc, si je reviens à mon petit schéma, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, on vient de voir que les malades donc, déficients en IL-12-P40 ou en récepteur de l'interleukine 12, donc qui ne sont pas capables d'activer convenablement la production d'interféron gamma, et ceci a été démontré des lymphocytes TCD4, sont très vulnérables à salmonelle. Donc, c'est la démonstration la plus solide qu'on puisse apporter du rôle de ces cellules et de cette cytokine, interféron gamma, dans l'infection à salmonelle. Mais les choses sont plus compliquées. Et c'est là qu'il y a un peu un élément de surprise. C'est qu'il y a des personnes, dont je vous reparlerai la semaine prochaine, qui ont des déficiences, à nouveau des cas très très rares, génétiques, qui font que le récepteur de l'interféron gamma, soit la chaîne numéro 1, en rouge ici, soit la chaîne numéro 2, en jaune au-dessus, peu importe, est déficiente. Donc la conséquence, est bien évidemment, c'est que l'interféron gamma ne peut pas se fixer sur son récepteur, en tous les cas, ne peut pas induire de signal activateur des multiples protéines que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ces rares individus qui ont un déficit en interféron gamma récepteur ne sont pas prédisposés particulièrement à salmonelle. Donc ça vient contredire tout ce que je viens de vous raconter, apparemment. Donc c'est comme quoi, de temps en temps, la génétique humaine, c'est important. Surtout, je vous ai montré tout à l'heure que les souris déficientes, en tous les cas dans les systèmes expérimentaux, ces souris déficientes en interféron gamma récepteur sont très susceptibles à salmonelle, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Évidemment, si on s'intéresse à l'homme, c'est plus pertinent. Mais les choses sont un peu plus compliquées, mais du coup, on a du mal à comprendre comment se fait-il. Il y a une apparente contradiction avec le fait que les déficiences en IL-12 ou en récepteur de l'IL-12, elles, entraînent une prédisposition à salmonelle. L'explication vient probablement du fait que cette chaîne P40 de l'IL-12, qui est déficiente, donc elle s'associe soit à l'IL-12-P35, soit à l'IL-23-P19, un autre élément de cytokine, et se fixe cette cytokine-là, qu'on appelle donc globalement l'IL-23, un autre récepteur, mais qui a toujours la chaîne bêta-1 partagée avec le récepteur de l'IL-12, IL-12R-bêta-1, mais cette fois-ci avec l'IL-23 récepteur. Donc les patients qui ont ces déficiences entourées en rouge ici, non seulement ils ont un défaut d'activation des cellules TH1, mais en plus des cellules TH17. Donc il est probable que, pour expliquer la vulnérabilité génétique à salmonelle chez l'homme, l'explication résulte dans le fait que non seulement il y a un déficit de production d'interféron gamma, qui certainement joue un rôle, mais en plus, il y a un déficit de fonction des cellules TH17 qui notamment sont impliquées au niveau des muqueuses dans le recrutement de cellules phagocytaires pour la destruction de bactéries. Donc ce résultat contredit les données expérimentales murines, ce qui montre que de temps en temps, il faut se méfier dans les interprétations des données murines si on veut réfléchir au système immunitaire de l'homme, et montre que les deux systèmes sont nécessaires et que l'un tout seul ne suffit pas. Parce qu'on peut montrer à l'inverse qu'il existe des maladies où il y a une déficience uniquement de cette catégorie de cellules, les cellules dites TH17, et ces patients ne sont pas particulièrement susceptibles à salmonelle. Donc il faut avoir une déficience fonctionnelle des deux populations pour être vulnérable à l'égard de ces bactéries. Voilà. Alors, rôle barrière de la flore intestinale, c'est un autre sujet qui est assez intéressant et extrêmement important en fait, dans l'écologie microbienne en général, mais qui s'applique à salmonelle. Et je vais vous en dire en mots à travers quelques résultats expérimentaux qui ont été produits récemment. À nouveau, on retourne chez la souris, donc gardez en mémoire le fait que ce qu'on observe chez la souris n'est pas toujours transposable à l'homme. Et vous avez ici de quoi il s'agit, c'est un peu toujours la même chose, modèle murin d'infection expérimentale par Salmonella typhimurium. Mais on regarde ce qui se passe en faisant en même temps des transferts de flore intestinale pour savoir si la flore intestinale qu'on va implanter chez des souris donc, qui étaient axènes, et pas axones, excusez-moi pour la faute ici, c'est pas des, on n'est pas dans le système nerveux, ce sont des souris axènes qui n'ont pas de bactéries, on reconstitue leur flore, soit avec une flore adulte, donc d'une souris à l'âge adulte, soit la flore d'une souris nouveau-née, en bleu. Et on regarde la survie des souris une fois qu'on les a infectées par typhimurium. Et vous voyez que les souris qui sont reconstituées avec la flore nouveau-née sont beaucoup plus susceptibles, puisque la moitié d'entre elles vont mourir dans les 7 jours qui suivent l'infection. Alors que la flore de l'adulte protège ces souris. Si on regarde ce qui se passe ici au niveau histologique et des lésions présentes, vous pouvez, il n'y a pas de lésion dans l'intestin qui est ici, qui est joli avec les belles villosités, malgré l'infection des souris qui ont reçu une flore adulte, alors qu'il y a une pathologie sévère chez les souris qui ont reçu la flore issue du nouveau-né. Et on peut titrer cet effet, ce qui est assez joli, c'est-à-dire si on réimplante une flore issue d'une souris à la naissance ou bien ensuite à des âges variés, pardon, je me trompe de sens, ça c'est adulte, c'est 4 jours de vie, 12 jours de vie, 16 jours de vie adulte. Donc plus la flore provient d'une souris âgée, tout est relatif, puisque c'est 4 jours, 12 jours, 16 jours, plus la charge bactérienne diminue, donc plus la maladie infectieuse est contrôlée. Donc avec la flore adulte, c'est la courbe rouge, vous voyez qu'il ne reste pratiquement plus de bactéries dans les selles 30 jours après l'infection. Si c'est une flore issue d'une souris qui a 16 jours de vie, c'est pareil. À 12 jours de vie, par contre, 4 jours de vie, ce n'est pas le cas. Donc il y a une césure entre J12 et J16. La flore se modifie et devient protectrice. Donc la question, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et les chercheurs qui ont fait ce travail ont été plus loin. Ils ont montré que probablement une classe de bactéries importantes sont des clostridium, donc des bactéries anaérobies, parce que si on ajoute à une flore de nouveau-né, donc qui ne permet pas de protéger les souris contre la bactérie, on ajoute clostridium, et c'est ce qui est ici en termes de survie, vous voyez qu'on restaure une survie de presque toutes les souris. Et on peut montrer que cette protection, elle est indépendante des réponses immunes directes via les toll-like récepteurs ou les réponses adaptatives des lymphocytes T et B. C'est absolument indépendant, je ne veux pas vous montrer les données. Et que probablement Clostridium, donc dans la flore adulte, non présente dans la flore du nouveau-né, favorise la production d'un certain nombre de métabolites qui sont défavorables à Salmonelle, la production de succinate, la moindre concentration en oxygène, puisque c'est une bactérie anaérobie, est défavorable à Salmonella typhimurium. Et donc c'est de cette façon que cette flore, à un certain âge de la vie, protège contre l'infection. Est-ce que cela peut s'appliquer à l'homme? Je ne sais pas, mais on peut concevoir qu'il en soit ici. Je change encore de sujet pour évoquer, je l'avais annoncé tout à l'heure, la physiopathologie de la fièvre typhoïde à partir de données humaines, expérimentales, éthiquement, à mon avis d'ailleurs, limite, comme vous allez voir, mais enfin bon, ces données ont été publiées, qui est la suivante. Des chercheurs ont essayé de savoir qu'est-ce qui se passe chez des sujets qui ont une infection, une fièvre typhoïde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des volontaires, j'espère que c'était des vrais volontaires, et 41 sujets, et on les a infectés, on a provoqué l'infection. Bon, et c'est une publication récente, donc je pense que les conditions éthiques sont convenables. Mais enfin, ce n'est pas une chose qu'on fait tous les jours. Hein. Juste à titre d'anecdote, M. Hansen, qui a découvert le bacille de la lèpre, pour démontrer que la pathogénicité du bacille de la lèpre, il a injecté le bacille à ses étudiants. Il a fait ça en Norvège, parce qu'il travaillait à... Si je me souviens bien, à Bergen ou à Trondheim, j'ai oublié, ça ne lui a pas porté chance, il a été exclu de l'université, encore heureux. Mais bon, donc les questions éthiques, au-delà de l'anecdote, ça compte. Mais bref, revenons au sujet. Infection expérimentale par Salmonella typhi par voie orale, 41 sujets, on va mesurer ce qui se passe, est-ce qu'ils sont malades, pas malades, on va mesurer les cytokines dans le sang, la bactériémie, et qu'est-ce qu'on observe? C'est que la moitié des sujets sont malades et la moitié n'est pas malade. Tout le monde ne développe pas une typhoïde, en ayant reçu la même quantité de bactéries, bien sûr. À gauche, ce sont les individus qui ont une fièvre typhoïde, et ils ont, comme vous pouvez le voir, on détecte dans leur plasma une production d'interféron gamma, enfin la présence d'interféron gamma, donc il y a eu production d'interféron gamma, avec un pic qui se situe 2-3 jours après l'infection. Chez les sujets chez lesquels il n'y a pas de fièvre typhoïde, il y a guère de détection d'interféron gamma, donc la réponse immune paraît à l'état systémique, en tous les cas, plus faible. Si on regarde une autre cytokine le TNF-alpha, production chez les sujets infectés, pas enfin infectés. C'est les sujets qui ont une fièvre typhoïde, attention à ce que je dis. Et ce n'est pas le cas pour les sujets qui n'ont pas de fièvre typhoïde. Si on regarde, j'en ai dit un mot rapide tout à l'heure, l'action de cette enzyme indo-1 qui catabolise le tryptophane dans des substances qui s'appellent quinurénine et quinolonate, les sujets qui ont une fièvre typhoïde ont un métabolisme du tryptophane important avec la détection de quinurénine et aussi de ce quinélonate, ce qui n'est pas le cas chez les sujets qui n'ont pas de fièvre typhoïde. Et on peut montrer, c'est une corrélation, donc attention, ce n'est pas forcément une relation de cause à effet, mais qu'il y a une corrélation entre la bactériémie et chez ces malades et la présence d'interféron gamma. C'est vraiment une corrélation très, très, très forte, où la bactériémie et la concentration de quinurénine, le produit de cette enzyme, qui est extrêmement forte. Donc, ce qui suggère, mais c'est une corrélation, encore une fois, pas une relation de cause à effet, que la fièvre typhoïde, la maladie typhoïde, pourrait être une conséquence de la réponse immune et en particulier de cette production d'interféron gamma. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin ? On peut essayer, parce que ce n'est pas tout à fait simple, mais ici, donc, et regarder la charge bactérienne en fonction de l'adjonction d'un inhibiteur de indo-1, qui est NCB, tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que l'on a ici ? On a une certaine quantité de charge bactérienne. Si on inhibe indo-1, la charge bactérienne s'élève. Et pour ce qui est de l'interféron gamma, l'effet de l'interféron gamma, c'est des réductions. Ici, on est dans les conditions expérimentales in vitro. L'interféron gamma réduit la charge bactérienne. Ce n'est pas une surprise compte tenu de tout ce que je vous ai dit. L'interféron gamma plus l'inhibiteur, ça remonte un peu. Mais donc, le catabolisme du tryptophane pourrait contribuer au contrôle de Tifi par les macrophages infectés, puisque c'est là pour l'essentiel qu'ils sont présents. Et on peut penser, avec les limites de ce type de données qui sont quand même surtout cliniques in vivo chez l'homme, et un tout petit peu expérimentales, que l'interféron est un médiateur clé de l'immunité antisalmonelle. On a vu que ce n'était pas le seul, mais il était important, et qu'il agit en particulier au niveau des macrophages infectés, mais qu'en même temps, il contribue à la physiopathologie. Donc on a à la fois un effet bénéfique et un effet qui, chez certains individus, prend une grande ampleur, qui est la maladie fièvre typhoïde, qui, encore une fois, on l'a vu au tout début, une maladie assez sévère. Donc, les toutes dernières minutes qui me restent, je vais évoquer un élément expérimental intéressant qui était récemment publié concernant un des mécanismes d'échappement de salmonelle au système immunitaire. J'ai très peu parlé, je vais avoir juste une diapo qui va suivre bientôt, des différents facteurs de virulence de la bactérie qui lui permettent de résister à tous les effecteurs de l'immunité que j'ai évoqués. Mais je vais vous montrer un élément supplémentaire néanmoins. Ce qu'il faut considérer en gros, c'est que dans le compartiment vésiculaire, dans ces fameuses vacuoles, les bactéries sont soumises à l'action des radicaux libres, de la perte de nutriments, on l'a vu, de protéines antimicrobiennes, qui sont les facteurs de résistance aux microbes. Et que le compartiment cytoplasmique est plutôt, à part l'autophagie, est moins efficace dans l'immunité anti-infectieuse. Donc la bactérie a aussi, même si elle ne peut pas s'y développer, peut avoir un avantage en termes de dissémination extracellulaire à rompre la vacuole. Donc ici, c'est juste pour l'évoquer une seconde, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. En rouge, c'est toute une série de protéines, c'est au moins pour évoquer le concept, et je pense que dans le modèle Bruxelles, vous allez en réentendre parler dans un instant, toute une série de protéines qui sont notamment sécrétées par le système sécrétoire, les seringues, aiguilles de la bactérie, qui bloquent toute une série des fonctions immunes, que ce soit la production des radicaux oxygènes libres, des peptides antimicrobiens, l'apoptose, NO. Tous ces systèmes et d'autres sont en partie inhibés par la bactérie. Donc il y a un équilibre entre les actions de l'hôte et les actions de la bactérie pour essayer de les limiter. Mais il y a des données qui sont par ailleurs parfois contre-intuitives, qui sont indiquées ici. Vous allez voir que Tifimurium utilise le système, en partie, le système immunologique à son profit. De quoi il s'agit ici ? Toujours un modèle d'infection expérimentale de macrophages par Tifimurium, et on utilise des macrophages Schwart qui expriment normalement les molécules de la famille TLR, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Soit en vert ici sont des résultats correspondant à une situation Je n'entre pas dans les détails de ce que signifient exactement les TLR2X, 4X, 3D, mais le résumé, c'est que les macrophages ici sont déficients en TLR. Et on compte ici le nombre de bactéries par cellule dans un modèle expérimental d'infection. Et après une heure, après 24 heures. Et vous voyez ce qui peut paraître totalement contre-intuitif, c'est que dans les macrophages déficients en TLR, il y a moins, au bout de 24 heures, c'est tout à fait clair, il y a moins de bactéries que dans les macrophages qui sont normaux. Donc ceci va a priori contre l'idée de ce que je vous ai... J'ai l'impression de me contredire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'activation des récepteurs de type TLR n'a pas l'air de protéger contre l'infection, mais au contraire de favoriser l'infection. Donc qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est quand même pas tout à fait exact, parce que ça, c'est au niveau des macrophages. Donc je ne vous ai pas dit que des bêtises tout à l'heure. C'est ce qui se passe au niveau des macrophages expérimentalement. Mais si on regarde in vivo chez des souris déficientes en TLR, on observe le résultat attendu. C'est que les souris déficientes en TLR, c'est les courbes vertes et les courbes jaunes, meurent plus vite que les souris qui sont sauvages ou équivalentes sauvages, je n'entre pas dans les détails. Donc, in fine, en termes de résultats bruts du contrôle de l'infection, il vaut mieux avoir des récepteurs de type TLR que ne pas les avoir. Mais néanmoins, au niveau des macrophages en intracellulaire, il y a un rôle contre-productif apparemment de TLR. Ça, c'est juste associé à la survie. Les souris déficientes ont plus de bactéries un peu partout, dans l'intestin, dans les plaques de Peyer, dans les ganglions mésentériques, dans la rate et dans le foie. Donc ça, c'est juste à l'échelle globale. Les TLR sont utiles, mais on a vu à l'instant, ici, qu'au niveau des macrophages, on a un effet opposé. Donc, comment on peut comprendre ça? Sans doute à peu près comme ceci, même si c'est sûrement simplificateur. Vous avez ici donc, ce qui se passe chez les souris sauvages. Typhimurium est capable donc, d'être endocyté, phagocyté par des macrophages notamment, qui expriment des TLR à la surface de la membrane cellulaire et des endosomes, et que ceci a pour conséquence des conditions biologiques via l'activation des TLR, une acidification, l'induction d'une protéine essentielle de la bactérie pour la réplication qui s'appelle SPI2. Et que donc TLR favorise d'une certaine façon la réplication intracellulaire de la bactérie. Mais par contre, n'inhibe en rien, au contraire, favorise la destruction, active la destruction des bactéries extracellulaires, donc ce qui limite la dissémination. Donc dans une souris TLR déficiente, de façon schématique, en intracellulaire, la virulence sera diminuée, mais par contre, il n'y a pas ou un moindre contrôle de la prolifération induite extracellulaire de la bactérie. Donc, bon, ce schéma n'est bon, pas tout à fait parfait, mais rend compte de cet effet paradoxal. TLR est utilisé par la bactérie pour sa réplication intracellulaire, mais en même temps, les TLR restent globalement une arme de défense utile et efficace contre salmonelle. Voilà, l'heure est atteinte, donc je vais passer ce point pour arriver à la conclusion. Parce que sinon, c'est trop long. On va s'arrêter là. On va laisser son temps à Jean-Pierre Gorvel de faire donner son séminaire. Donc on a vu qu'il y avait toute une série de stratégies de défense qui étaient mises en jeu contre salmonelle, qui présentent à l'échelle intracellulaire et extracellulaire. Et qu'un des mécanismes sur lequel j'ai beaucoup insisté, parce qu'il est de mon point de vue, assez nouveau dans la description de l'immunité anti-infectieuse, telle qu'il a été mis en évidence ces dernières années, c'est l'extrusion des cellules épithéliales infectées, un phénomène extrêmement précoce de l'infection, donc qui la limite et qui est mis en jeu par ces récepteurs dits node-like récepteurs. Donc on a vu ensuite, dans l'immunité adaptative, les lymphocytes TCD4, TH1, mais aussi TH17, je vous renvoie à ce que je vous ai dit sur les données de la génétique humaine, sont importants pour contrôler la salmonelle, que la bactérie peut détourner certains moyens de défense, je l'ai évoqué brièvement concernant les toll-like récepteurs, que la flore microbienne protège, et je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais il y a quelques modèles expérimentaux, enfin, qui ont beaucoup de limites néanmoins, qui laissent penser, qui suggèrent que l'infection par salmonelle, si elle est capable de persister un certain temps, et peut induire par des phénomènes indirects une inflammation, donc si l'infection, mettons, au niveau du duodénum, peut induire une inflammation chronique indépendamment de la présence de bactéries au niveau du côlon, donc qui pourrait être un modèle, mais avec un énorme conditionnel. Ne prenez pas ces données-là comme agent comptant, mais comme un facteur possible qui favoriserait les pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est un modèle intéressant, mais qui reste extrêmement hypothétique à ce jour. Voilà, je vais m'arrêter là en ce qui concerne la description, la discussion de l'immunité contre les salmonelles, et pour laisser dans deux minutes la parole à Jean-Pierre Gorvel, qui va évoquer l'immunité contre un autre pathogène intracellulaire, Brucella. Donc je vous rappelle que Jean-Pierre Gorvel est directeur de recherche au CNRS, hein, je crois, tu es au CNRS. Et comment ? Exact. Et qu'il est à Marseille-Humini, au prestigieux centre d'immunologie de Marseille-Humini, qu'il a d'ailleurs dirigé quelques années dans le passé, et qu'il est donc un grand spécialiste justement de l'étude des relations hôtes pathogènes. Il a travaillé sur Salmonelle, son équipe a travaillé sur Salmonelle, il a travaillé sur Mycobacterium et il a travaillé sur Bruxelles, et c'est de Bruxelles que tu vas nous parler. Voilà, merci beaucoup d'être là. Le temps qu'il s'installe, si vous avez... Je peux répondre à quelques questions.